suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel.
Nous sommes lundi matin et le premier lundi matin du mois, c'est l'heure de Tous Essentiels sur les ondes de Radio Campus. Bonjour Virginie.
Bonjour Max, es-tu essentiel ce matin?
Ah mais écoute, je l'espère. En tout cas, j'ai fait du vélo pour arriver et ça déjà, c'est pas mal.
Bravo.
Je crois que ce matin, tu as un invité.
Oui, un invité qui s'appelle Timothée Duverger. Et alors, juste pour le teasing, il a écrit L'invention du revenu de base, la fabrique d'une utopie démocratique.
Ah bah oui, il fallait l'inviter.
Bonjour Timothée.
Bonjour.
Alors, je vais te présenter en trois mots et te poser notre question rituelle. Donc j'ai envie de dire de toi que... Alors, tu travailles à Sciences Po Bordeaux, ça c'est pour faire bien tout de suite. Et surtout, ce qui est très intéressant dans ton approche, c'est que tu travailles, tu diriges la chaire Économie sociale et solidaire dans les territoires. Et j'aime beaucoup le lien que tu fais, quand on dit bottom top. Donc, comment on peut s'approprier notre pouvoir d'agir, y compris sur l'idée du revenu de base, à partir de la base, c'est-à-dire de nous, quoi, nous les essentiels. Donc, tu nous parleras notamment du projet de la Fondation Jean Jaurès. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te soumettre à notre question rituelle. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire. Et tu sais que tu l'as jusqu'au bout de ta vie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Dans mon cas, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Parce que j'ai la chance de gagner déjà bien ma vie. Et j'ai un travail en plus qui a du sens et qui me passionne. Donc je ne suis pas certain, à vrai dire, de modifier radicalement mon mode de vie. voilà. Donc dans mon cas personnel, c'est pas dit que ça change grand-chose, à vrai dire. Mais si ce n'est que ça, évidemment, ça accroîtra mon pouvoir d'achat. Bon, ça me permettra éventuellement de réduire certaines activités pour mieux équilibrer éventuellement temps au travail et temps de loisir. Mais enfin, ce ne sera pas une modification radicale pour ce qui me concerne.
Mais par contre, comme tu sauras en plus que tous tes proches et tous les gens le recevront aussi, peut-être que ça changera.
Oui, ça desserrera les taux, notamment parce que j'ai une fille, notamment. Donc ça permet aussi de construire, en l'occurrence, son projet de vie. Et je pense que ça, c'est un élément assez structurant, c'est-à-dire au-delà d'une égalisation des conditions. Ça permet aussi aux jeunes en particulier de construire leur projet de vie en autonomie. Hein. Et donc de ce point de vue, je pense qu'effectivement, ce serait un bénéfice sans doute.
Merci. Alors donc tu as participé au projet de la Fondation Jean Jaurès qui depuis 2016, mené par la Gironde explore cette idée de revenu de base, revenu d'autonomie. Tu as utilisé les mots différents, mais l'idée est la même. On va essayer de scanner un petit peu ce projet à travers nos trois questions habituelles. La première, c'est les attentes sociétales, avant d'entrer dans le concret, parce que chaque version de revenu de base, c'est qu'un outil dans un projet de société. Donc, est-ce que tu peux nous définir, pour toi, pour votre équipe, les attentes sociétales, le rêve, l'ambition, en fait, de ce projet?
En fait, elles sont de deux ordres. Il y a une première ambition qui... relève, on va dire, d'ordre social, c'est-à-dire qui vise à lutter en particulier contre la pauvreté et l'exclusion, puisqu'aujourd'hui, les minima sociaux, notamment, excluent beaucoup de monde, hein, puisque par exemple, il y a un taux de non-recours assez élevé sur le RSA, de l'ordre de 35%, donc de personnes qui sont éligibles, mais qui n'en bénéficient pas. Donc ça, c'est par exemple, pour donner cet exemple, on pourrait donner également... l'exemple des jeunes, hein, on a vu qu'il y avait une question sociale concernant les jeunes, notamment lors du Covid, hein, et depuis, à travers, par exemple, les images de recours à l'aide alimentaire en particulier. Hein, donc il y a un sujet aussi de ce côté-là. Donc il y a évidemment une ambition sociale assez forte de ce point de vue pour constituer un véritable filet de sécurité, en fait, pour des populations qui aujourd'hui sont mal protégées et en décrochage. Voilà, donc ça c'est un premier volet. Et il y a un deuxième volet en fait qui relève de l'autonomie projet d'autonomie, c'est-à-dire faire en sorte, effectivement, à travers la fourniture d'un revenu de ce type, eh bien, à chacun de construire son projet de vie en autonomie, de desserrer la pression, et notamment, donc, ça s'oppose évidemment aux injonctions à la valeur travail qui n'ont pas forcément grand sens telles qu'elles sont formulées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une valeur structurante du travail pour nos sociétés, c'est un fait, mais encore faut-il définir de quel travail on parle, de sa rémunération, de sa qualité, du sens dont il est porteur. Voilà, donc la question du revenu de base permet effectivement aussi de se construire vis-à-vis du travail, dans ce rapport au travail renouvelé, parce que libéré au fond des exigences de la nécessité. Donc le travail restera évidemment une aspiration pour la grande majorité des individus, mais ils auront la possibilité de le construire en autonomie, ce rapport.
Donc ce que j'entends dans ce que tu dis, tu me dis si je me trompe, hein, il y a une forme de confiance a priori qui est donnée à chaque individu dans ses propres repères, ses propres choix pour son propre bonheur finalement. Mmh. Et j'entends aussi, mais je ne sais pas jusqu'où va votre réflexion là-dessus, sur une autonomie par rapport à leur travail dans le sens emploi. Est-ce que l'ambition va jusqu'à pouvoir se passer d'un emploi, en sens de un contrat de travail, alors soit avec moi-même si je suis autant entrepreneur, mais dans un réseau ou dans le cadre salarial, etc. Est-ce que vous allez jusqu'à pouvoir se passer d'emploi ou est-ce que c'est pas forcément dans cette réflexion-là?
Techniquement, c'est possible puisqu'il y a le principe du revenu de base que nous proposons, et on l'a renommé d'ailleurs revenu d'autonomie dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien effectivement de le rendre inconditionnel, c'est-à-dire que c'est une allocation inconditionnelle. Mmh. Hein, à partir du moment où on dit c'est un minimum social, eh ben, c'est un droit plein et entier, et à ce titre, eh bien, il n'y a pas de raison d'y appliquer ni d'obligation, hein, tel que ça va être le cas maintenant avec le RSA, puisque maintenant on adosse au RSA une obligation de 15 heures d'activité, donc pas d'obligation ni de sanction. Hein. Les sanctions ont également été renforcées dans le cadre du RSA, c'est-à-dire que si les personnes en situation de pauvreté n'adoptent pas le comportement attendu, eh bien, on leur retire tout ou partie de leur allocation, hein, voilà, de manière temporaire ou permanente. Et donc, nous, notre idée, c'est au contraire de renforcer l'inconditionnalité. Alors, pour autant, est-ce que l'objectif, c'est d'organiser la sortie du travail? La réponse est non. Si on défend l'inconditionnalité, c'est pour des raisons à la fois, je dirais, de sécurité et de liberté. Sécurité d'un point de vue social et liberté du point de vue des choix de vie des individus. Pour autant, on ne pense pas que la sortie du travail soit souhaitée par la plupart de la population. Hein. Quand on regarde les enquêtes, quand on regarde aussi les effets de ce type de revenus, on se rend compte que les gens n'aspirent pas du tout à sortir du travail. Alors après, il peut y avoir des reconfigurations hein, de ce travail. Effectivement, il peut y avoir la question des indépendants, il peut y avoir un rapport au salariat qui est plus discontinu, il peut y avoir une revalorisation d'activités de type bénévole. Enfin bon, donc ça, il peut y avoir également, évidemment, des choses qui relèvent de l'aidance et notamment donc du soutien à des personnes vulnérables dans son entourage proche. Enfin, il peut y avoir plein de choses différentes. Donc il s'agit effectivement de reconsidérer et de revaloriser. Mais l'important, évidemment, c'est pas de désocialiser les individus. C'est-à-dire que le travail, dans ses différentes dimensions, permet aussi de socialiser les individus. Et c'est aussi ça qu'ils recherchent quand ils vont travailler, de créer du lien social, de trouver du sens dans leur existence, etc. Et donc ça va pas s'arrêter parce qu'on met en place un revenu quel qu'il soit, on l'appelle revenu d'autonomie. Donc c'est pour ça que l'objectif n'est pas du tout d'organiser la sortie du travail. Pour autant, j'ai envie de dire, tous les choix sont possibles.
J'entends dans son discours qu'il y a une reconnaissance au-delà du travail égal emploi, parce qu'on a toujours du mal avec ce mot-là, effectivement d'autres types d'engagement sociétal et même pour soi-même quand tu parles de bénévolat. Et j'ai envie d'illustrer ton propos aussi avec une expérience qui m'a beaucoup marquée quand on a travaillé avec ATD Quart Monde et aussi des personnes au RSA dans le cadre de leur formation, où le fait de les interroger s'interroger sur le revenu de base, ça leur permettait en fait de rechercher finalement qu'est-ce qui leur manquait et qu'est-ce qu'ils cherchaient dans un emploi. Et en fait, c'était assez impressionnant parce que ce soit dans les deux types de rencontres qu'on a pu avoir dans le groupe local de Lille avec ces publics-là, la réponse était quasiment unanime. C'était en fait, on veut pas d'argent. Alors d'abord parce qu'il y avait aussi une partie de méfiance. Ouh là là, si on nous donne de l'argent sans rien faire, on va se faire entuber et on ne sait pas comment, donc on préfère pas en avoir. Mais il y avait surtout cette idée de non, on veut pas d'argent, on veut du travail. Il y avait la dignité et comme tu l'as cité, le sens de s'épanouir, de trouver sa place, l'appartenance, les liens, l'évolution, etc. etc. Donc voilà, c'est pour illustrer et faire aussi le pendant avec le taux de non-recours que tu as cité tout à l'heure, pour ceux qui nous écouteraient, qui ne connaîtraient pas, qui auraient la chance de ne pas connaître cette précarité qu'est le RSA, avec toutes les humiliations et cette méfiance reçue, même au guichet. Voilà, donc j'avais envie de rebondir là-dessus pour appuyer ton propos. Donc voilà, donc j'entends qu'il y a aussi une liberté accordée aux individus sur la forme du travail qu'ils auraient envie. Et tu as parlé aussi, tu as cité aussi une forme de rythme du travail quand tu as parlé du salariat peut-être intermittent, etc. Donc respect de son rythme et choix du sens finalement, c'est ça ?
Tout à fait. Oui, mais l'idée c'est de valoriser à la fois, je dirais, la pluriactivité, hein, que donc ça peut être des formes de travail, mais ça va au-delà de la question du travail. Hein, c'est vraiment une diversification, une reconnaissance de la diversité des formes d'activité. Ça, je pense que c'est important et qu'il y a des bénéfices sociaux à des activités qui ne relèvent pas du travail et encore moins de ces formes salariées. Hein, c'est pour ça que j'ai évoqué la question des aidants notamment. Mais au-delà de ça, l'objectif, c'est aussi effectivement d'avoir une conciliation des temps. Hein. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi, dans ce cadre, des logiques de congés sabbatiques. C'est-à-dire que, comme la question de la réduction du temps de travail qui peut être liée hein, à cet enjeu du revenu, c'est-à-dire l'objectif évidemment de la transformation du travail, c'est pas juste de réduire le temps de travail. Ça peut être ça, parce qu'effectivement, il y a une intensification du travail avec, sous contrainte des exigences notamment de productivité, de gouvernance par les chiffres aussi, du management, etc. Bon, donc il y a une pression très forte aujourd'hui sur le travail, donc il y a un enjeu également, je dirais, de réduire le temps de travail, hein, ça c'est clair, mais aussi de le transformer, ce travail, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait un travail de qualité. Hein, et ça, c'est un élément important. D'ailleurs, quand on regarde les premières utopies autour de ce revenu, si on regarde par exemple un Charles Fourier au début du 19e siècle, qui était un auteur socialiste qui a produit un certain nombre d'utopies à l'époque et qui a beaucoup influencé ces questions-là, eh bien, il défendait d'un côté un revenu minimum, un minimum social. Donc, alors sous la forme d'un revenu ou de prestations, hein, ça dépendait, il y avait plusieurs versions dans ses écrits, mais peu importe. En tout cas, il y avait un minimum d'un côté, et puis de l'autre, il y avait la question du travail attrayant. C'est-à-dire, s'il y a un minimum qui fait qu'on a le choix de ne pas travailler, eh bien, il faut rendre le travail attrayant, disait-il, c'est-à-dire attractif, en fait, lui donner du sens, qu'il y ait du plaisir au travail, etc. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est certes de réduire le temps de travail. Alors, ça peut être de le réduire pas seulement de manière hebdomadaire, parce qu'en fait, on l'a souvent pensé comme ça, hein, c'est la réduction de la semaine de travail, donc 40 heures, 35 heures,
RTT, enfin,
39 heures, 35 heures, etc. Voilà, donc il y a eu des phases de réduction du temps de travail de ce moment-là. Il y a eu, de cette manière-là, il y a eu des réductions du temps de travail qui étaient liées au congé, hein, donc là, maintenant, on est à 5 semaines, voire plus selon les organisations. On a des réductions, mais on peut avoir des réductions du temps de travail aussi qui soient tout au long de la vie, c'est-à-dire de dire, voilà, c'est cette idée d'une année sabbatique ou bien de prendre un temps pour peut-être mener un projet et puis après revenir au travail un peu plus tard. Bon, ce qu'il va avoir, si on rentre dans ce type de logique, évidemment des incidences aussi sur l'organisation des retraites, par exemple. C'était un mouvement social l'an dernier, donc ça peut avoir aussi des incidences, évidemment, de ce point de vue. Et en tout cas, ça veut dire recomposer, j'ai envie de dire, le travail à l'échelle probablement d'une vie. Voilà, hein, il y a aussi cette question-là à poser. Voilà, et puis de l'autre côté, comme je disais, rendre le travail aussi de qualité, c'est un point important. Donc ça suppose qu'à côté des utopies ou des projets autour du revenu de base ou d'autonomie, comme on l'appelle, eh bien, on ait également un projet de démocratisation du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République est partout, même si elle peut fonctionner, on va dire, de manière un peu aléatoire, mais la République est partout, sauf dans l'entreprise. Hein, c'est-à-dire que le seul endroit qui n'est pas démocratique en France, c'est l'entreprise. Voilà. Donc, il y a sans doute un enjeu très fort aussi de ce point de vue, de démocratisation du travail, avec derrière des enjeux de transformation d'un management qui est aujourd'hui trop vertical, autoritaire et pathologique, particulièrement en France.
Je renvoie les auditeurs qui seraient intéressés sur la liste des risques psychosociaux dont on parlait d'équilibre vie pro, vie perso par exemple, ou, qui est intéressante à ce niveau-là. Et du coup, ce que j'entends aussi à travers ce que tu dis, c'est que le revenu de base peut être un formidable levier de revendication, de réappropriation de nos conditions de travail finalement, et du sens au travail, et donc certainement des tâches en elles-mêmes, c'est-à-dire que les tâches qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'impact positif, etc., serait sans doute remise en question. Il faudrait les réaménager à minima, peut-être les supprimer. Je ne sais pas jusqu'où va votre
mieux
réflexion.
Les payer, hein, il peut y avoir mieux les payer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs enjeux. Il y a la qualité, mais il y a aussi la rémunération. Donc, par exemple, si je prends un exemple d'une catégorie de métier qui est assez développée, tous les métiers de la cohésion sociale. Hein, donc, on peut prendre l'exemple aussi de l'aide à domicile ou de secteurs d'activité de ce type. Donc, tous les secteurs de la cohésion sociale aujourd'hui sont en crise. Ils ont une crise de recrutement, une crise d'attractivité et paradoxalement une crise de sens. Hein, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on voit dans ces catégories de métiers qui ont une formidable utilité sociale, hein, parce que ce sont des métiers qui sont au service des autres, eh bien, il y a une crise de sens. Alors, pourquoi, pour quelle raison? Parce que les conditions d'exercice de ces métiers ne sont pas positives. C'est-à-dire qu'en fait, on est, je le disais tout à l'heure, sur un management par les chiffres avec finalement une attention aux soins, une attention au lien social, une attention à l'autre qui est pourtant le cœur du métier, en train de se fragiliser, de s'affaiblir parce qu'il est sous le coup d'exigences de productivité, de rendement. Il y a cette problématique-là. Donc l'enjeu, c'est notamment de revoir les organisations de travail. Hein. Il y a des expérimentations aux Pays-Bas qui arrivent d'ailleurs en France, qui s'appelle l'expérimentation Burzorg, qui permet de renforcer l'organisation du travail en autonomie, c'est-à-dire qu'on définit des circonscriptions d'intervention qui soient donc des territoires en fait qui soient plus petits, à plus petite échelle, hein, ce qui permet notamment parce qu'en plus ce sont des femmes, donc en plus il y a un cumul, je dirais, des difficultés, c'est-à-dire que ce sont souvent des femmes peu diplômées qui interviennent dans ces métiers qui sont au demeurant pénibles. Donc là l'enjeu c'est de renforcer leur autonomie, donc qu'elles aient des circonscriptions territoriales qui soient plus réduites, qu'elles puissent organiser leurs emplois du temps, qu'elles puissent effectivement bénéficier de rémunérations également plus élevées, parce qu'aujourd'hui, par exemple, d'être dans l'aide à domicile, ça, c'est à peu près les salaires de l'ordre de 900 euros par mois, puisque ce sont souvent des temps des temps subis et puis des temps partiels, hein, qu'on améliore aussi l'accompagnement autour de la formation pour permettre une forme de promotion sociale. Bon, donc il y a des enjeux de ce type, vous voyez, à poser évidemment à côté, voilà, hein. Ça c'est tout à fait essentiel, me semble-t-il. Donc il faut aussi encore une fois se servir de cette idée d'un revenu, non pas pour créer une crise du travail, mais plutôt pour réformer le travail. Alors, je pense que l'enjeu, c'est plutôt celui-ci, parce que créer une crise du travail, c'est-à-dire organiser une sorte de sortie massive du travail, en réalité, ça va ne faire qu'individualiser la société, ça va créer beaucoup de pathologies sociales, en fait, hein, ça c'est absolument certain, on l'a vu avec le Covid, hein, pathologies sanitaires et sociales, hein, on le voit avec beaucoup de fragilités du point de vue psychologique qui ont émergé à cette occasion, des formes de désocialisation, une violence qui monte dans la société, etc. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qui participe d'une désocialisation est plutôt évité. Alors, il faut renforcer la socialisation, mais il faut que celle-ci, évidemment, soit épanouissante, qu'on élimine les pathologies qui lui sont associées. Voilà, c'est ça dont il s'agit, en fait. C'est pour ça que l'enjeu n'est pas tant, voilà, donc quand il faut sortir du travail, mais de sortir d'un certain travail. Je pense que l'enjeu, il est plutôt là.
Merci beaucoup, Max me fait des grands signes. Aurais-tu une musique ?
Mais oui, tout à fait. En fait, je ne résiste pas au plaisir d'avoir quelqu'un de la Fondation Jean Jaurès pour passer une chanson sur Jaurès, la fameuse de Jacques Brel, mais qui, cette fois-ci, est interprétée par le groupe Zebda. Alors, c'est parti.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre, oui notre monsieur, oui notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu lorsque l'on part. Aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Voilà le groupe Zebda sur les ondes de Radio Campus 106,6, une radio que vous pouvez également retrouver en DAB+, ou sur le www.campuslille.com. Et vous êtes toujours à l'écoute de Tous Essentiels avec Virginie.
Et Timothée, merci beaucoup Max pour cette chanson. Doublement d'abord parce que bah justement quand on entend que la valeur aujourd'hui préférée, c'est la valeur des actions Mittal, sachez-le, parce que Mittal a la grande chance de nous réarmer au niveau de l'Europe, parce qu'il paraît qu'on n'a pas assez de munitions. Donc quand on parle de guerre, peut-être que certains sont en train de nous préparer à ça. Et donc j'ai envie de remercier aussi Timothée et tous ceux qui travaillent derrière la Fondation Jean Jaurès, parce qu'ils font justement revivre ou continuer à vivre Jean Jaurès et ses idées. Et aujourd'hui, elles sont, je trouve, tout à fait, comment dire, contemporaines, on peut le dire.
On peut dire ça, oui.
Du coup, merci beaucoup à toi, Timothée. Tu vas nous présenter justement le projet de la Fondation Jean Jaurès. Mmh. Est-ce que tu peux nous faire un rapide historique pour nous remettre en situation?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un projet. Donc, autour, au départ, on parlait de revenu de base, hein, qui est la notion admise, on va dire, un peu conventionnelle autour de ces sujets. Hein. C'est une traduction de Basic Income au niveau anglais, qui permet d'y ranger, on va dire, tous les projets, toutes les études autour de ces sujets, hein, même s'ils peuvent être d'une grande diversité. Et donc, ce projet revenu de base, au niveau de la Fondation Jean Jaurès, on l'a démarré. En 2016, il y avait eu une première note de la Fondation qui s'était essayée de manière un peu grossière à un chiffrage de ce que donnerait un revenu de base, soit à 500, 750 ou 1000 euros par mois. Hein. Donc ils avaient essayé de voir comment on pourrait recycler notamment des dépenses sociales là-dedans, qu'est-ce que ça engagerait, etc. Bon, donc il y avait, bon, c'était un peu grossier, mais c'était un premier travail qui a permis d'ouvrir le débat là-dessus. Et puis, suite à ça, on a fait un rapprochement avec le département de la Gironde qui souhaitait expérimenter en fait un revenu de base, et donc qui a mené des travaux donc en 2016 jusqu'en, on va dire, fin 2018 sur le sujet, avec à la fois l'Institut des politiques publiques, donc c'est un organisme de recherche en économie spécialisé sur l'évaluation des politiques publiques, donc qui a produit notamment des chiffrages sur ces sujets, mais aussi une phase de participation citoyenne, à la fois à travers des focus groupes très divers, hein, de personnes pouvant être bénéficiaires, comme de travailleurs sociaux, comme d'entrepreneurs, etc., etc. La constitution d'un jury citoyen, et puis aussi, parce qu'après la démarche s'est élargie à d'autres départements, hein, au total il y avait une vingtaine de départements à la fin qui étaient engagés dans ce projet, une grande enquête citoyenne qui avait permis de collecter quelque chose comme 15 000 réponses sur un design, on va dire, de ce que pouvait être le revenu de base. Donc, on les questionnait sur pensez-vous qu'il faut qu'il soit inconditionnel, que pensez-vous d'intégrer les jeunes, comment prend-on en compte le minimum vieillesse ou bien l'allocation adulte handicapé, etc. Enfin, donc, des questions parfois très précises. Et donc, on a quand même eu 15 000 réponses. Et de tout cela a émergé une proposition de loi en faveur de l'expérimentation d'un revenu de base. Qui prévoyait, voilà, je vais revenir après sur les conditions, en tout cas qui dessinait un revenu de base et qui proposait de l'expérimenter dans ces départements qui portaient le projet. Cette proposition de loi a été déposée à l'époque par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Et elle est arrivée pendant la crise des Gilets jaunes, au cours de laquelle le gouvernement a refusé la proposition de loi, donc en fait a appelé à une motion de rejet de l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'il n'y a même pas eu de débat en fait à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Voilà, donc la proposition de loi a été écartée. C'était le moment, c'est pour ça que je mentionnais la crise des Gilets jaunes, où le gouvernement prétendait défendre la valeur travail, hein, déjà. Il y avait un clivage en fait qui s'était opéré. C'était pas les questions financières, hein, l'enjeu n'était pas financier, parce que le projet avait été conçu de façon à être soutenable pour les finances publiques, mais vraiment sur des questions philosophiques presque, hein, des questions politiques autour de la valeur travail. Ça s'était clivé là-dessus. Et quand on se souvient, lors de la crise des Gilets jaunes, il y avait eu le principal instrument qui avait été utilisé pour calmer la fronde, c'était une augmentation notamment de la prime d'activité, hein, c'est-à-dire d'une forme d'allocation, disons, qui vient compléter des revenus du travail, justement. Hein. Et c'était pas par opposition, évidemment, le RSA lui-même ne connaît que les évolutions strictement réglementaires, hein, ce qui fait qu'il est en décrochage par rapport aux autres types de revenus. Donc voilà, donc clairement, il y avait une orientation, un référentiel de politique publique qui voulait cliver, hein, sur la valeur travail, raison pour laquelle, évidemment, ce projet qui en réalité organisait un continuum, hein, entre les minima sociaux et la prime d'activité, puisqu'il proposait, ce revenu de base proposait notamment de fusionner le RSA et la prime d'activité. Donc l'idée, c'était bien d'inclure aussi les catégories de travailleurs dedans, mais évidemment pas que. Et donc c'est là-dessus que le refus du gouvernement s'est opéré début 2019.
Et voilà. Qu'à la suite de ça, oui, pardon.
Voilà. Et suite à ça, ben, on a poursuivi donc le projet d'expérimentation a été refusé, hein, parce qu'il y a besoin d'une loi d'expérimentation en la matière. Donc, avec la Fondation Jean Jaurès, on a continué à y travailler dans deux directions. La première, c'est un rapport que nous a fait Marc Wolff, donc qui est un expert en matière d'impôts notamment, pour essayer de réfléchir à renforcer notamment le volet la conception financière, on va dire, du dispositif, et notamment l'inscrire dans un grand projet de réforme socio-fiscale qui permettrait d'opérer un continuum entre, disons, les prélèvements et les prestations. Voilà, c'est-à-dire que l'idée serait de mettre en cohérence à la fois le système social de prestations et le système fiscal de prélèvements pour, je dirais, éviter les incohérences en fait actuelles hein, qui peuvent exister dans le système, le rationaliser et puis aussi le financer, c'est-à-dire que ça permettait évidemment de faire de la redistribution pour financer ce revenu. Donc ça a été un premier axe de réflexion. Et un deuxième axe de réflexion, c'est ce qui nous a amené à modifier un petit peu l'approche, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup travaillé sur la part allocative du RSA, mais moins sur la part accompagnement. Et donc, au-delà de l'allocation de ressources, se poser la question de mais comment on fait, puisque au fond, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les personnes vivant la pauvreté d'ATD Carmonde, qui veulent en fait travailler. Donc, comment on fait en sorte, évidemment, de favoriser cela? Eh bien, c'est pour ça qu'on a transformé la notion de revenu de base en revenu d'autonomie pour insister sur le deux points, c'est notamment le fait d'intégrer un véritable droit à l'accompagnement et un droit à l'emploi. Hein, voilà, c'est-à-dire non pas d'obliger encore une fois les gens à prendre un emploi et surtout n'importe quel emploi, mais sur la base du volontariat, leur donner les moyens évidemment d'y accéder et surtout de réaliser leurs souhaits, leurs aspirations, que cela évidemment soit conforme à leur savoir-faire, à leurs envies. Voilà. Donc c'était véritablement ça la logique aussi de ce deuxième travail. Et donc là, on continue évidemment à porter ce projet et à le travailler en lien aussi avec ces départements qui restent tout à fait investis. On le travaille aussi avec des associations de solidarité hein, avec qui on discute beaucoup hein, et notamment là lors de la dernière réforme du RSA, lors des débats qui ont eu lieu. On a avancé un certain nombre, disons, de propositions qui ont été largement reprises, tant par le collectif Alerte qui regroupe les associations de solidarité que par l'opposition de gauche à l'Assemblée nationale.
Dont d'ailleurs, c'est une des objections qui nous est posée par une certaine gauche et une objection à entendre, évidemment, qui s'opposerait au revenu de base comme un solde de tout compte et qui, effectivement, entraînerait l'arrêt de l'accompagnement, de tout ce qui est alors accompagnement à l'emploi, bien sûr, mais aussi psychologique, mais aussi à la famille, mais aussi au logement, etc. Parce que tout ça, c'est souvent très lié et même incrusté. Donc, tout le travail que vous avez fait, ça permet aussi de bien montrer que le revenu de base n'est qu'un outil dans un ensemble et que c'est pas parce qu'on met un nouvel outil qu'on enlève tout le reste. Et j'ai envie de rebondir aussi pour nos auditrices et auditeurs, un petit rappel que M. Macron, dans sa campagne électorale, avait vanté son amour pour les expérimentations et il avait promis qu'il les faciliterait. On voit que ça a touché sa limite et notamment par celle que vous avez posée. Et on voit aussi comment, et tu l'as suggéré, depuis avec cette crise des gilets jaunes, plutôt que de soutenir plus largement, effectivement, dans les manifs que j'ai pu fréquenter, c'était beaucoup de travailleurs pauvres, pour le coup, qui se sentaient très proches de la précarité qui craignait de tomber dans cette trappe à pauvreté qui consiste déjà à être un travailleur pauvre, mais aussi un contrat qui s'arrête ou l'intermittence, etc., etc. Et de plutôt que de rassurer tout le monde et de faire un socle comme nous on le voudrait avec le revenu de base ou d'autonomie, mais finalement de jouer sur cette opposition et qu'on voit encore aujourd'hui de plus en plus affirmée, de plus en plus construite entre des travailleurs pauvres mais qui sont méritants parce que oui vous êtes pauvres mais au moins vous participez, vous n'êtes pas assistés, donc qui vaudrait mieux presque à la limite être travailleur pauvre mais digne que bénéficier des aides et être un assisté. Il y a quelque chose qui se joue qui est très idéologique effectivement comme tu disais à ce sujet-là. Est-ce que tu veux bien rentrer dans le un peu plus concret pour qu'on puisse se repérer en termes de levier de financement pour le coup?
Oui, bien sûr. Alors, il y a deux, il n'y a pas que le financement, il y a deux aspects en fait. Il y a d'une part le design lui-même du dispositif, donc en fait qui vise à articuler trois droits, donc un droit au revenu qui passe par, je l'ai un peu évoqué, l'inconditionnalité, donc c'est-à-dire l'absence de contrepartie ou de sanction. Hein, ça, c'est un point assez essentiel. Donc l'inconditionnalité. Un deuxième point, c'est la question de l'automaticité, c'est-à-dire faire en sorte que ce versement, que le versement du droit soit automatique, hein, c'est-à-dire qu'il ne soit plus, qu'il n'ait plus besoin d'être demandé, mais qu'il soit proposé,
hein, éviter les non-recours, mais oui,
aux personnes pour, voilà, exactement, pour éliminer le, autant que possible le non-recours. Et troisième point, qu'il soit augmenté parce que le montant, hein, c'est ce qu'on a vu, donc le montant des minima sociaux a décroché, hein, c'est-à-dire n'a pas évolué aussi vite que, ben, par exemple, le salaire minimum ou bien tout simplement le revenu moyen ou même le revenu médian en France. Donc,
et encore moins l'inflation.
D'autant plus, effectivement, dans un contexte d'inflation, donc ça évolue, mais très faiblement, au ralenti, on va dire, ce qui fait qu'en fait, il y a une paupérisation des personnes qui sont déjà les plus vulnérables. Voilà. Donc ça, c'est le bloc, on va dire, droit au revenu. Il y a un bloc droit à l'accompagnement, c'est-à-dire faire en sorte, évidemment, de renforcer les dispositifs de soutien, d'accompagnement, à la fois social, en particulier social, mais aussi professionnel, à destination des personnes allocataires. Ça, c'est un point assez important, parce que du fait du... Ce qui s'est passé, c'est que ces dernières décennies, il y a eu une croissance très importante des financements de l'allocation, parce qu'il y a eu de plus en plus de gens qui étaient dans l'allocation. Donc voilà, et ça s'est fait au détriment très souvent du financement de l'accompagnement. Donc là, l'enjeu, c'est évidemment de rééquilibrer ça dans une logique aussi de prévention, hein, c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes puissent reconstruire leur vie, ce qui permettra à la fois d'avoir des bienfaits sociaux, mais aussi, même si c'est pas l'objectif prioritaire, ça fait toujours du bien aux finances publiques. Et enfin, troisième point, c'est le droit à l'emploi. Donc là, c'est l'expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée en particulier, qu'il s'agirait évidemment de diffuser à l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est que, en fait, se créer des entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire sur les territoires pour porter des emplois qui soient à la fois volontaires, donc que les personnes qui privées durablement d'emploi puissent s'y investir de manière volontaire, sur un temps de travail choisi, et donc sur la base d'un CDI rémunéré évidemment selon les cadres légaux, enfin voilà, qu'on soit pas sur des formes de sous-emploi, mais ou d'emploi dégradé, mais au contraire, voilà, qu'on soit bien dans des formes d'emploi salariés et autour d'activités qu'ils choisissent, hein, c'est-à-dire qu'ils participent à la définition du contenu de leur travail, confrontés évidemment aux besoins du territoire, puisque l'objectif, c'est de produire des travaux utiles pour le territoire, donc des services et des biens qui sont utiles au territoire. Voilà, donc ça, c'est trois droits, droit au revenu, droit à l'accompagnement, droit à l'emploi, sont au cœur, on va dire, de ce projet de revenu d'autonomie. Alors après, dernier aspect sur la partie financement, l'enjeu, c'est, comme je le disais, d'organiser un grand continuum socio-fiscal entre les différents types de revenus. Donc ça suppose en fait entre les prélèvements et les prestations, hein, voilà, plus exactement. Et donc ça suppose effectivement à la fois de bien designer, on va dire, le projet, et aussi de voir où c'est qu'on prélève. Bon, l'idée, c'était évidemment de revenir sur certaines suppressions, enfin, ou sur certaines réductions fiscales mises en place par l'actuel gouvernement, hein, donc qui a fait quelques cadeaux fiscaux. Donc l'idée était évidemment de revenir sur ces quelques cadeaux fiscaux, mais aussi du point de vue des dépenses, de limiter, on va dire, le poids de cette allocation. Et alors, il y a une manière, en fait, très concrètement, si on mettait en place ce revenu d'autonomie, il y aurait des surcoûts qui tiendraient à trois types de dépenses. Il y a une première, c'est le taux de recours. C'est-à-dire que si on le rend automatique, de fait, il y a 35% de plus de gens qui viennent dans l'allocation.
C'est plus d'économie.
Hein. Oui,
voilà,
mais bon, on peut considérer, j'ai envie de dire, qu'un taux de recours à 100%, ça devrait juste être normal. Donc, ça ne devrait pas être un véritable sujet. Mais enfin, bon, il y a quelques surcoûts, quelques milliards, on va dire, qui sont liés à ça, de l'ordre de 3-4 milliards d'euros. Il y a également des surcoûts qui sont liés à, le deuxième type de surcoût principal, on va dire, ce serait lié notamment à la question des jeunes. Hein, voilà. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire comment on fait en sorte d'intégrer les jeunes qui sont aujourd'hui exclus en fait des minima sociaux. Donc, il n'y a que 3 pays hein, en Europe, donc il y a 27 pays dans l'Union européenne, il n'y en a que 3 qui excluent les jeunes de leurs minima sociaux, dont la France. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut rentrer dans le minima social qu'à 25 ans, sauf situation particulière, notamment, c'est-à-dire quand on est chef de famille, si on a des enfants, en fait. Hein. Mais hormis ça, il n'y a pas de possibilité d'accéder au RSA. Et après, vous avez d'autres dispositifs hein, qui peuvent exister, comme maintenant le revenu d'engagement jeune et autres, mais qui sont des dispositifs très incomplets, on va dire. Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait,
on a fait le pari, est très conditionné, etc. Donc, on a fait le pari, on va dire, concernant les jeunes, d'une insertion par le travail, effectivement, qui est priorisée sur justement les filets de sécurité. Voilà. Bon, ça aboutit au fait que vous avez un quart de jeunes qui vit sous le seuil de pauvreté, hein, ce qui aboutit aussi à des situations de décrochage assez fortes, une perte de confiance dans les institutions. C'est un phénomène qui participe de la déstabilisation en réalité de la société.
Donc, et elle renvoie à une solidarité familiale qui crée beaucoup de tensions.
Enfin, et ça peut renvoyer effectivement, on privilégie la solidarité familiale sur la solidarité nationale. Donc, en fait, la solution pour à la fois intégrer les jeunes et faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher et que ce soit juste, parce que l'une des critiques aussi, c'est de dire, mais si on donne un revenu d'autonomie à tous les jeunes, eh bien, on renforce des inégalités existantes, puisqu'en fait, on le verserait potentiellement à des jeunes qui bénéficient justement d'une solidarité familiale assez forte, etc., et qui ont déjà toutes les chances, qui en plus sont dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est lui-même financé par le public. Enfin bon, donc ça aboutirait à des phénomènes de renforcement des inégalités. Donc, face à ça, en fait, la logique, c'est de s'appuyer sur l'obligation d'aide alimentaire des parents pour dire que, en gros, chaque jeune doit faire un arbitrage, c'est-à-dire que si ses parents ont les moyens, alors s'il n'y a pas de ressources au niveau familial, bon, ben, bien sûr, il touche le revenu d'autonomie, il n'y a pas de sujet. Si, en revanche, les familles ont les moyens, ben, il y a deux solutions. Donc c'est un arbitrage qui est renvoyé à l'individu, soit le jeune décide de sortir du système familial et donc de bénéficier de ce revenu d'autonomie, ce qui a des implications pour la famille, c'est-à-dire que ça veut dire que concrètement, ben, elle perd le bénéfice évidemment des allocations familiales, enfin des prestations familiales, des différents crédits d'impôt, etc. liés à ça. Donc elle perd ce bénéfice-là et éventuellement, selon son niveau de revenu, elle pourrait avoir quelques prélèvements supplémentaires pour financer au fond ce transfert. Voilà. Donc ce serait une manière d'autonomiser les jeunes, qui pourraient aussi construire leur propre projet, mais tout en rendant ça soutenable du point de vue des finances publiques. Voilà. Pour limiter un peu les coûts et puis en même temps faire en sorte que ce soit inscrit dans une logique de justice sociale. Voilà, donc l'astuce, on va dire, qui avait été trouvée par Marc Wolff était celle-ci pour effectivement limiter. Donc avec ça, finalement, on arrive à des dispositifs qui, en fait, ça dépend un petit peu du calibrage, ça dépend aussi si on augmente le montant de ce revenu, etc. Mais on va dire qu'on est au total entre 10 et 20 milliards d'euros. Ce qui n'est pas si énorme que ça, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Au projet de loi de finances 2024, le budget en dépenses de l'État était de 490 milliards d'euros, hein, d'accord, hors sécurité sociale. Hein, c'est juste le budget de l'État. Et après, il faut quasiment doubler pour avoir la sécurité sociale. Donc, sachant que tout ce qui relève de la solidarité nationale, en fait, d'un point de vue budgétaire, est extrêmement minoritaire, hein, par rapport à la sécurité sociale, le poids que pèsent évidemment les retraites et autres. Bon. Donc, en fait, la question, bien sûr, il y a des arbitrages financiers importants derrière, mais enfin, on n'est pas sur quelque chose qui est insoutenable. Voilà. Donc ça, c'est le point essentiel. Et donc, ça veut dire que simplement, même en faisant quelques modifications mineures, en fait, au niveau du point de vue de la réforme fiscale, on peut arriver à le financer, voilà, sans grand chambardement. En fait, c'est ça le point essentiel.
Oui, on peut même rajouter, mais là je renvoie tout le monde à la carte des expérimentations sur le site revenudebase.info, où on pourrait imaginer, même si on ne peut pas les chiffrer, plein d'externalités positives en termes même d'économie d'État. Encore une petite musique avant de passer au prochain petit pas possible.
Mais oui, parce qu'on ne l'a pas passé depuis longtemps. Je te propose une chanson de Renaud Bistan qu'on connaît par cœur dans cette émission, Les Chemins de mon cœur. Astier, c'est parti.
Ça fait un mois qu'on l'a pas entendu.
Non, oh, plus que ça, plus que ça quand même.
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés. Pour leur bonne humeur et leur disponibilité, leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Comme un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Il te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés, car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Les chômeurs de mon quartier ont chacun 12 000 métiers. Commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand-chose, mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben, ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté. Il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqué par le démon de la reconnaissance sociale. D'un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi, que c'est triste de voir un copain trouver du travail.
Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6 avec Tous Essentiels, l'émission du revenu de base.
Et on va passer au plus petit pas possible, comme le titre de Timothée Duverger qu'on reçoit aujourd'hui, l'invention du revenu de base, la fabrique d'une utopie démocratique. Mais ça va commencer par où, Timothée ?
Ça va commencer par où ? Ben, je pense qu'on peut en fait avoir deux options. Soit c'est une réforme systémique qui traite l'ensemble des dimensions de ce revenu, donc c'est-à-dire ce que j'évoquais sur la réforme socio-fiscale d'un côté, en place à l'intérieur de celle-ci, de ce revenu articulant droit au revenu, droit à l'accompagnement, droit à l'emploi. Donc ça, on pourrait tout à fait, dans l'absolu, à vrai dire, mettre en place de manière assez immédiate cette réforme. Bon, on peut imaginer aussi une expérimentation préalable, hein, mais encore faudrait-il à ce moment-là qu'elle soit faite dans un nombre significatif de départements, mettons un quart ou quelque chose comme ça, dans un objectif de déploiement, hein, c'est-à-dire l'objectif, il n'y a pas besoin spécialement d'en vérifier tous les effets pour se demander si c'est une bonne mesure ou pas. Toutes les études déjà produites permettent de montrer que les effets attendus seront plus ou moins importants, évidemment, et pourront être calibrés. Bon, mais en tout cas, sur le fond de l'affaire, il n'y a pas besoin d'une expérimentation pour décider de la validité du projet, je pense. Enfin, ça c'est clair. Donc à voir, en tout cas, comment ça pourrait être mis en place. Et après, deuxième option, ce serait plutôt d'introduire ça à travers des mesures graduelles, c'est-à-dire des réformes successives. Et donc, on pourrait tout à fait imaginez, par exemple, mettre en place d'abord le versement automatique, hein, pour résorber le non-recours. Aujourd'hui, les logiciels de la CAF, d'un point de vue technique, permettraient de le faire. Hein. Ça s'est fait, par exemple, pour contemporanéiser, comme on dit, l'allocation, les APL, hein, en particulier.
D'accord.
Donc maintenant, avant, c'était réfléchi à N-2, c'est-à-dire à 2 ans. Hein, les revenus, c'était pris en compte les revenus 2 ans avant. Désormais, c'est beaucoup plus immédiat. Donc on peut tout à fait utiliser ce type de technique pour mettre en place un versement automatique de ce revenu. Ça peut être un premier pas de la réforme déjà qui aurait des bénéfices tout à fait conséquents. Augmenter le montant des minima sociaux, c'est pareil, hein, c'est une simple décision en fait. Hein. Enfin, il n'y a pas besoin de là non plus de grandes réformes. Intégrer les jeunes, ça demanderait sans doute un peu plus de travail, mais ce serait sans doute une des mesures prioritaires. Hein. Je crois que aujourd'hui, créer un revenu d'autonomie pour tous les jeunes, c'est quand même une priorité. Voilà. Et dernier point, enfin, mettre en place le droit à l'accompagnement. Là, c'est pareil, ça demande des moyens supplémentaires. Alors, soit au niveau des départements, de Pôle emploi, des missions locales. Enfin, voilà. Donc, ça demanderait effectivement que le nouvel organisme, la France Travail, évidemment, soit doté des moyens à la hauteur de ses ambitions. Et puis, dernier aspect, c'est évidemment la possibilité de diffuser la garantie d'emploi de manière large, hein, donc à travers Territoire Zéro Chômeur, qui au fond serait étendu à l'ensemble des territoires. On a vu que lors du dernier vote du budget, ça a été un peu compliqué puisqu'il manquait une dizaine de millions d'euros. Les associations se sont battues et ont obtenu cette rallonge budgétaire. Évidemment, il faudrait aller plus loin pour notamment la troisième loi hein, autour de Territoire Zéro Chômeur. Il y avait une première loi qui avait expérimenté dans 10 territoires. Il y a une deuxième loi qui expérimente actuellement dans 60 territoires. Il y aura une troisième loi en 2025 qui nous dira si on maintient l'expérimentation telle qu'elle, si on la supprime ou bien si on la diffuse à l'ensemble du territoire national, ce qui évidemment serait assez souhaitable. Donc on peut tout à fait, je dirais, c'est du Lego, mais on peut tout à fait prendre certains leviers, on va dire, de cette réforme et les séquencer, produire des réformes de manière graduelle pour avoir une montée en puissance progressive autour de cela. Hein. Voilà, donc les deux voies sont tout à fait possibles, à vrai dire.
Et ce que j'entends aussi, c'est que en fait, on a déjà les ressources. Donc, tu parlais de la technique, mais je pense aussi même par rapport aux personnels sociaux qui ont de plus en plus de leurs tâches qui sont purement administratives, à des vérifications de dossiers, etc., des rendez-vous qui permettent de sucrer ou pas, d'ailleurs, le RSA ou autre allocation. Du coup, si on pouvait réoptimiser leurs compétences sociales d'accompagnant, je pense quand même en termes de risques psychosociaux et de leurs conditions de travail, ils en seraient ravis parce que la plupart n'ont pas choisi d'être assistants sociaux pour lire des dossiers et tacler des bénéficiaires. Donc je pense qu'il y aurait aussi une libération et quelque chose de bien vécu là. Et je renvoie aussi ceux qui seraient intéressés par Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Bon, nous, on est à Lille, donc on a quand même eu quelques expérimentations, quelques bassins de vie qui ont été touchés ici, évidemment sur le site de AT Descartes-Monde, et avec aussi tout ce questionnement qui est très intéressant sur le côté Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Donc comment est-ce qu'on prend effectivement à partir de la personne, de ses compétences, de son rythme aussi, etc., pour créer un emploi, et en même temps cette limite qui est donnée à cette expérimentation de il ne faut pas que ce soit concurrentiel au marché privé. Donc voilà, voir aussi comment est-ce qu'on réussit à rendre pérenne ce type d'expérimentation et les limites qu'on lui donne et qui impactent quand même beaucoup sur la réussite et le déploiement possible même auprès des personnes, parce que c'est plus facile d'aller chercher des personnes finalement qui sont déjà pas très loin de l'emploi pour justifier de faire du chiffre et montrer que ça marche, plutôt qu'effectivement se donner le temps d'aller vers des personnes qui ont envie de travailler mais voilà, ont perdu le rythme, n'ont pas la santé, n'ont pas des compétences qui correspondent au marché, etc. Donc voilà, si on veut soutenir l'ambition de cette expérimentation-là, je pense qu'il faudrait aussi l'assouplir un petit peu et avant de la généraliser. Mais bon, ça c'est une expérience de terrain qui a été partagée ici, notamment à Campus avec AT Descartes-Monde qui le porte. Donc pas à n'importe quel prix. Et j'interroge, mais je ne veux pas relancer forcément un grand débat sur les quelques minutes qui restent, mais une question qui me vient, c'est aussi cette façon d'appeler le droit à l'emploi ou la garantie d'emploi. Est-ce que tu ne craindrais pas que ça devienne un devoir d'emploi
À vrai dire, c'est déjà un devoir. C'est-à-dire que dans la Constitution, il est indiqué que chacun a le droit, dans le préambule de la Constitution, il est indiqué que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Hein, donc ça existe déjà. On voit bien la question du devoir de travailler. Hein, à vrai dire, ça ne cesse d'être renforcé par le gouvernement. Donc ils n'ont pas attendu le territoire zéro chômeur pour mettre en place ce type de mesures. Là, il s'agit bien justement de rééquilibrer les choses en réaffirmant le fait que c'est aussi et d'abord un droit. Voilà, hein, c'est plutôt de ça dont il s'agit. À vrai dire, le fait que ce soit un devoir, c'est déjà très largement le cas et c'est la tendance actuelle. Donc là, il s'agit plutôt justement d'opérer un contre-mouvement vis-à-vis de ça.
D'accord. Donc tout en gardant en tête, en tout cas pour moi, enfin, pour nous avec Max, c'est quelque chose qui nous est important, comme tu disais, de pouvoir diversifier les types de travail, donc notamment bénévolat et autres, pour ne pas limiter en fait le travail. Donc entendons contribution au commun, etc. Déjà à soi-même, à son propre épanouissement, et puis voilà, au corps social, comme on dit. Mais voilà, de laisser cette possibilité. Je réagis comme ça parce qu'effectivement, on va de plus en plus vers un devoir d'emploi. Et là, pour le coup, ça risquerait d'enfermer beaucoup. Et notamment un certain nombre de personnes aujourd'hui qui utilisent le RSA pour contribuer bien au-delà que ce qui pourrait contribuer dans un emploi non seulement précaire, non seulement maltraitant et en plus potentiellement bullshit, comme on dit. Voilà, donc pas du tout au service ni des humains ni de la nature. Donc je ne sais pas si c'est une piste de réflexion ou de vigilance du projet.
Si, bien sûr, c'est au cœur. Hein. C'est pour ça que nous, on défend vraiment cette idée. Le pilier, ça a été l'inconditionnalité, ce qui n'était pas simple à porter hein, politiquement, hein, parce que les enquêtes, on va dire, d'opinion sont plutôt défavorables à ça. Hein. Car il faut se dire aussi qu'il n'y a pas d'adhésion de la population à l'idée d'une inconditionnalité des aides. C'est même plutôt le contraire, à vrai dire. Donc ça demande du courage politique, ce qu'ont eu, je crois, les départements qui se sont engagés là-dessus et qui n'ont jamais remis en cause ce principe. Ça a toujours été l'élément différenciant, et c'est d'ailleurs sur cela que le gouvernement a refusé le projet d'expérimentation. Hein, donc ça, c'est évidemment au cœur. Et pour pouvoir reconnaître la pluralité des formes d'activité, eh bien, en fait, la base, c'est cette inconditionnalité. Parce que sinon, on rentre dans des logiques de contrôle, on va recréer des dispositifs avec plein de cases à cocher. On va poser des questions aussi, à mon avis, très problématiques sur le bénévolat, c'est-à-dire est-ce que le bénévolat doit être rémunéré? La réponse est évidemment non. Mais le revenu de base peut indirectement l'encourager, mais indirectement, ça c'est un point très important. Donc il y a il y a d'autres débats derrière. En fait, la question clé, c'est l'inconditionnalité. Après, pour le reste, ce qu'il faut, c'est stimuler le développement du lien social, faire en sorte effectivement d'avoir une société civile active qui mène des initiatives, qui soit dotée de moyens pour le faire, qui soit reconnue. Voilà. Donc ça, ça renvoie aussi à un débat un peu plus large, on va dire, sur le fait que par exemple aujourd'hui la vie associative n'a pas de rattachement ministériel. Hein, ça en dit long sur le manque de considération de ce type d'initiative.
Et la réduction des subventions, etc. J'avais une dernière question à te poser parce que la Fondation Jean Jaurès est plutôt affiliée, je ne vais pas dire affiliée, mais disons connotée PS. Est-ce qu'il y a un travail plus large en termes d'élus? Est-ce que ça intéresse d'autres personnalités de la gauche ou en les citant ou pas, tu vois, mais juste pour voir un peu ce que vous réussissez à toucher au-delà des 20 départements.
Non, mais ce qu'on avait fait, par exemple, on avait eu une note, notamment, sur l'idée de l'ouverture, parce qu'on avait décomposé ça, notamment, pour la question des jeunes, hein, en disant il faut ouvrir le RSA aux jeunes, et fait une note là-dessus qui avait été relayée, typiquement, par toute la gauche. Hein. Donc, on avait eu donc c'était une mesure très NUPES compatible, on va dire, puisque, notamment, LFI, les Verts, bien sûr, mais avait relayé. Donc nous, la Fondation Jean Jaurès, effectivement, a été créée par Pierre Mauroy, hein, donc ça situe politiquement les choses. Pour autant, il n'y a pas de lien, financier ni avec le Parti Socialiste. Donc du coup, c'est une fondation, c'est un think tank, hein, donc qui est tout à fait indépendant, qui est reconnu par l'État, etc. Donc voilà, qui est situé clairement à gauche, qui a évidemment des affinités avec le PS, mais qui travaille plus largement avec l'ensemble des forces de gauche. Hein. Il y a des choses par exemple, qui ont été faites avec François Ruffin dernièrement. Enfin, bon. Donc c'est un espace qui est tout à fait ouvert de ce point de vue.
Et ben merci beaucoup pour tout ce travail de pollinisation que vous faites à tout niveau, du bottom au top et du top au bottom. Je vais renvoyer tout le monde, tous ceux qui voudraient creuser ça au site. Vous tapez Fondation Jean Jaurès, c'est dans le moteur de recherche revenu de base ou revenu d'autonomie. Vous pourrez retrouver les travaux, notamment de Timothée Duverger et Marc, je ne sais plus son nom de famille, tu vas nous le rappeler ?
Marc Wolf,
merci beaucoup.
Voilà.
Merci
beaucoup. Sylvain Arnaud, on est plusieurs à avoir travaillé dessus. Ouais, Nicolas Bouillant, voilà.
Merci de les citer aussi, et puis au plaisir de retravailler avec vous dans le cadre du MFRB peut-être.